Double Ren.
Double Ren.
On est mercredi, vous écoutez Canal B et moi c'est Georges. Avec moi il y a Kat dans le studio, salut.
Salut Georges.
Il y a Binge également.
Hello.
C'est donc Purple Rain qui démarre, oui, comme tous les mercredis soirs jusqu'à 20h en direct, où on va découvrir ou redécouvrir un artiste rennais qui nous amène un nouveau disque. C'est ça le principe généralement, et puis on l'entendra en live dans une vingtaine de minutes grâce aux mains et aux oreilles expertes de Binge, Benjamin BC, qui mixe le live chaque semaine. Voilà.
Et on va découvrir une langue aussi ce soir, n'est-ce pas Georges?
Ou redécouvrir
c'est sûr.
Attention, tout le monde n'est pas un culte
c'est vrai.
Nous quand même.
Sorvé fait bêtier, monde varié, on n'a pas ce monde voir qu'il benefine et hungry, angel and aline, belle de strousen tambouline, dremena qui dénéole, atre sa quipine, arguin, t'as pas place à morphine.
Voilà, alors on sait que la langue bretonne se marie bien avec différents genres musicaux. Exemple ici avec le rap de Chris Men. On aurait pu écouter d'autres artistes britophones influencés jazz, rock ou reggae. Mais souvent, quelle que soit la musique qu'on lui associe, la langue bretonne est chantée avec un phrasé, un rythme très distinctif, sans doute lié aux danses. On va peut-être en reparler au cours de cette émission. Puis il y a aussi l'intonation propre à la langue bretonne. Ça s'appelle, paraît-il, le pouez-mouez. Voilà. Ça, vous pourrez le ressortir en dîner mondain.
Instant culture.
En tout cas, c'est plus rare d'entendre le breton chanter à la manière de l'indie folk anglophone, entrelacé, lové dans les mélodies, à la façon des Canadiens Timber Timbre ou Patrick Watson, par exemple. C'était Patrick Watson avec The Cinematic Orchestra. Et donc faire sonner le breton de cette manière, eh bien, est-ce possible, Kat?
Apparemment,
bah
oui.
Et oui, et figurez-vous que notre invité ce soir le fait merveilleusement bien. Il s'appelle Briek Garveno et il sort le 16 mai prochain un nouvel album intitulé Unknown Avo. Ça veut dire Il y aura une nuit en breton. Et on écoute tout de suite un premier extrait avec le titre Calan Flamme. On se retrouve avec lui juste après.
Down.
Bonsoir Briac Garveno, bienvenue
bonsoir
dans cette émission, bienvenue dans ce studio de Canal B. Donc tu parles et tu chantes en breton, tu parles couramment breton aussi.
Oui.
Mais tu es né à Saint-Brieuc qui est, si on regarde les cartes, plutôt dans le pays gallo.
C'est ça.
Où est-ce que tu as appris le breton alors?
Alors, moi j'ai toujours vécu en Haute-Bretagne, mais mon père était bretonnant, donc il m'a parlé breton. Malheureusement, il est parti, il est mort, j'avais 4 ans et demi, donc j'ai pas pu avoir une éducation en breton paternelle. Ma mère comprenait le breton, mais ne le parlait pas, comme beaucoup de gens de sa génération. Et moi j'ai été scolarisé à Diwan dès l'âge de 3 ans, donc parmi les premiers élèves à Diwan, et donc j'ai fait une bonne partie de ma scolarité là-bas, quoi.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de chanter en breton, de t'affirmer en langue bretonne? Ça aurait pu être un choix qui, je sais pas aujourd'hui comment tu le vis, mais ça peut être un choix aussi qui t'enferme peut-être dans une image qui est finalement pas celle que tu as. Pourquoi tu as fait ce choix-là?
Eh ben en fait, moi j'ai commencé la musique très très jeune. J'ai commencé à faire des groupes de rock à l'âge de 12 ans. J'étais au collège Diwan à Brest, et à l'époque on commençait à faire des groupes, des chansons, et on écrivait, c'était des groupes de punk, et on écrivait en anglais et on écrivait en breton. On avait fait commencer à faire des petits textes en breton. Et c'est vrai qu'adolescent, après j'ai eu d'autres groupes à Saint-Brieuc, et c'est l'anglais. Moi je faisais du métal, donc on avait des groupes de métal à 16-17 ans à Saint-Brieuc, et j'écrivais en anglais. Et vers 17 ans, j'ai commencé à me dire, ah, ce serait bien. Moi j'écoutais des groupes norvégiens qui chantaient en norvégien, et je me disais, ah, ce serait carrément classe de faire des trucs en breton, parce que c'est hyper guttural, le breton, ça va être super pour faire du black death. Donc du coup je me suis mis à faire des textes comme ça, et quand je suis arrivé à Rennes, j'avais 18 ans quand je suis arrivé à Rennes, et il y avait une librairie Cobraise à l'époque, place Sainte-Anne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il y avait un vendeur qui travaillait là, et puis j'avais pas encore démarré mon projet solo. Et il me disait, ouais, mais Briac, tu devrais faire tous tes textes en breton et tout ça. Puis ça m'a travaillé. Et puis je sais pas, à l'époque de 18, 19, 20 ans, j'ai affirmé cette chose-là en me disant, ouais, c'est aussi ma langue, et j'ai envie de pouvoir la chanter, et j'ai envie de pouvoir en faire surtout quelque chose de différent. Parce que j'avais le sentiment que c'était une langue qui était effectivement beaucoup employée dans la musique traditionnelle, mais qu'il n'y avait rien, ou pratiquement rien, dans les musiques actuelles.
Dans les autres styles, ouais.
Et à ce moment-là, tu faisais toujours du brutal death metal.
Ouais, je faisais toujours du metal. J'avais un groupe à l'époque qui s'appelait Opère Arcane, que j'ai fait jusqu'à mes 21-22 ans. Et puis après, j'ai fait une pause de la musique et j'ai commencé à écrire des chansons tout seul, comme ça, à la folk. Et puis ça s'est fait petit à petit, un peu de façon désintéressée, un petit peu, juste faire des chansons. Puis en fait, le projet, il a commencé vraiment à partir en 2012, par là, où ça commence, j'ai commencé à un peu plus jouer et à sortir des albums, etc.
Oui, parce que je disais juste avant, c'était un choix qui aurait pu t'enfermer, mais t'as quand même joué au Trans, au Vieille Charrue, t'as fait vraiment beaucoup, beaucoup de très belles dates. Ouais. Peut-être qu'en dehors de la Bretagne, c'est plus compliqué ou pas forcément? Est-ce que tu arrives à sortir de la Bretagne et à aller chanter en breton ailleurs?
Alors c'est beaucoup plus compliqué de chanter en breton en dehors de la Bretagne. Néanmoins, récemment, le mois dernier, j'ai joué à Hossegor, par exemple, pour une radio qui faisait son anniversaire. Et ils m'ont invité. J'ai joué avec Cocania, qui est un groupe occitan. Et c'était super, une super soirée. Je me suis retrouvé à jouer en solo devant des gens, devant 80 personnes qui connaissaient pas un mot de breton et qu'il fallait réussir à garder pendant une heure, avec une musique assez introspective, assez intimiste et tout ça. Et ça a super bien marché, en fait. Et c'est là où on se dit qu'effectivement, en fait, la langue n'est jamais une frontière. C'est la musique qui parle, et la musique des mots, la mélodie qui parle aux gens avant tout, quoi.
Parce que j'imagine, ici, tout le monde ne comprend pas le breton non plus. Enfin, j'imagine que quand tu joues au Trans ou au Vieille Charrue, je pense qu'il y a moins les trois quarts du public qui ne comprennent pas forcément les textes, et que tu arrives quand même à embarquer, donc pourquoi pas ailleurs, en fait?
C'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une langue bretonne qui est un peu mourante, qui n'est plus beaucoup pratiquée, ça c'est certain, et qui est en mauvaise posture quand même, faut le dire. Mais en fait, ça fait partie de mon identité, en fait. La langue bretonne, je l'emploie tous les jours. J'ai des amis à qui j'ai jamais parlé en français, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment de l'ordre de mon identité, c'est de l'ordre de mes racines, de moi-même. Et je suis un britophone d'aujourd'hui, en fait, qui a pas des sabots, et qui a pas un chapeau rond, mais qui écoute du rock et qui...
Les clichés que les gens gardent.
C'est ça, et en fait, si la langue bretonne n'avait pas été exterminée comme elle a été exterminée, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait, pendant la Troisième République, il y a vraiment eu une volonté d'anéantir cette langue et la culture bretonne. Mais quand on va dans d'autres grandes régions européennes, que ce soit le Pays de Galles ou le Pays Basque, les langues là-bas sont les gens, il y a une société civile bilingue. Donc ça change complètement les choses. C'est-à-dire que si on était une société civile bilingue en Bretagne, et si à Rennes une bonne partie de la population était bilingue, on percevrait les choses différemment et il y aurait sans doute beaucoup plus de groupes ou d'artistes comme moi. Voilà.
Comment tu expliques qu'il y ait aussi peu de groupes qui tentent d'écrire, de faire un groupe de métal en breton, de faire de la folk en breton, etc. Parce qu'il y a des groupes britophones, il y en a quand même pas mal, mais en fait, c'est ce que je disais dans l'intro, moi j'ai l'impression que c'est souvent des groupes qui sont axés fest-noze ou fest-noze ou des choses comme ça, mais est-ce que toi tu partages cette impression-là?
Bah, disons que là, ces dernières années, il y a de plus en plus de propositions, moi je trouve, des jeunes, il y a des groupes qui sortent là et qui sont intéressants, dans plein de styles différents, mais c'est vrai qu'il y a quand même un lien très fort entre la langue bretonne et la musique traditionnelle, c'est ce qui est transmis le plus aussi, mais je pense que ça peut changer, parce qu'il faut aussi des locuteurs, il faut aussi des jeunes locuteurs. Quand je disais que la langue bretonne, c'est une langue mourante, c'est qu'une bonne partie de pratiquement la majorité des britophones ont plus de 60 ans. Donc le constat, il est là. C'est-à-dire que si on n'a pas de jeunes locuteurs et si c'est une langue qui ne va pas plus parler par les jeunes, on ne peut pas s'attendre non plus à ce que ça bascule, quoi.
Et effectivement, comme disait Ben tout de suite, tu joues devant des gens qui ne comprennent pas ce que tu dis, alors que les paroles, c'est quand même très important dans la musique, tu passes énormément de temps et tout ça. Comment toi, tu appréhendes le live en te disant, là, je vais jouer devant... Parce que l'anglais, on se dit quand même, la plupart des gens captent au moins des mots, des choses comme ça.
Ouais, vite fait quand même. Hein. Là... je sais pas si toi, tu comprends des textes
Non, mais justement, je dis des mots, on capte au moins des mots, des choses qui font que on peut quand même à peu près comprendre...
Le titre au moins.
Voilà, il y a des choses comme ça. Là... Comment tu appréhendes ça, le live?
Là, récemment, en groupe, je ne prends pas vraiment le temps de parler entre les morceaux parce que je trouve que le contexte du groupe s'y prête pas forcément. En solo, c'est plus le cas. Et j'en parlais avec une des filles de Cocagna quand j'ai joué à Oségor, qui me disait « Ouais, tu as aussi un rôle de conteur, en fait, Briac. » Et c'est vrai, parce qu'en fait, j'ai pris le temps entre les morceaux d'expliquer un peu d'où ça venait, cette poésie et tout ça. Mais moi, en fait, je vis la langue comme quelque chose de quotidien et... Moi, par exemple, récemment, j'ai été voir un groupe à Lubu qui chante en anglais. C'est un groupe français qui chante en anglais. À aucun moment, moi, j'ai rien compris. Et je comprends l'anglais. Hein. Je parle anglais, je ne peux pas dire couramment, mais je comprends très, très bien l'anglais. Et je parle assez bien anglais. Et honnêtement, j'ai été voir ce groupe. J'ai absolument rien compris de ce qu'il a dit en anglais. Alors oui, j'ai entendu des mots. Mais alors, ça ne m'a pas du tout donné une question de cette réflexion, je me suis fait ces réflexions. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on vient me voir à la fin des concerts pour me demander d'expliquer les textes? Parce que, soi-disant, on ne comprend pas, alors qu'il y a énormément de groupes en anglais où moi, je ne comprends absolument rien. Moi, quand j'écoute du death metal en anglais, moi, je suis désolé, ou du black metal, je ne comprends absolument rien de ce qu'ils racontent. Voilà. Mais on a une espèce de tradition en France de la chanson française aussi, où on aime bien comprendre les textes, et ça, je l'entends. Donc j'essaie de faire quand même l'effort, c'est important. Et pour essayer de ramener les gens un peu dans mon univers aussi.
Bon, on va écouter un artiste basque que tu as choisi, Briec. C'est une autre langue régionale qui, elle, se porte un peu mieux que le breton, a priori. Ouais. Et donc je te laisse nous présenter l'artiste en question.
Eh bien, Xabir Bardiola, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui fait partie de plusieurs groupes en Espagne, enfin au Pays Basque espagnol, il est de Bilbao, et il joue dans un groupe qui s'appelle Sotomontes, qui est un groupe de stoner. Il a ce projet-là en solo, et en fait, on a joué ensemble à Sarre, au Pays Basque, il y a quelques semaines de ça, et donc on a fait connaissance, on a parlé de faire des dates ensemble, et j'ai voulu partager cet artiste-là, parce que, déjà, je trouve que c'est très très beau ce qu'il fait, c'est de la folk très 70s, un peu à la Nick Drake, moi j'adore ces univers-là. C'est un super joueur de guitare en picking, il a un super jeu, il a une super voix, je l'ai vu en concert, moi je suis resté... vraiment scotché. Et puis la langue basque, donc j'ai pris un chanteur basque aussi pour montrer qu'ailleurs on fait aussi des choses dans les langues dites minorisées. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur pour cette émission.
On écoute donc Xabir Badiola, ça s'écrit X-A-B-I-E-R, son prénom, si vous voulez le réécouter sur les internets. Et puis, quelque chose nous dit que peut-être on aura l'occasion de le voir en live à Rennes dans les prochains mois. Hein,
j'espère bien, ouais,
apparemment.
On écoute ça, puis on se retrouve juste après avec Briek Garveno pour le live dans Purple Rain. À tout de suite. Ce soir, c'est Briek Garveno, c'est donc l'heure du live et on va entendre trois titres extraits de son album à paraître le 16 mai prochain, quand tu veux.
Alors, je vais commencer par un morceau qui s'appelle Piovin. Voilà, c'est un morceau que j'ai écrit après avoir lu un livre de Jón Kalman Stefánsson, qui est un auteur islandais qui a fait un livre qui s'appelle Asta, qui est magnifique. Donc Piovin. Piovin.
Eclipse les d'aurore. Blow away you call. Guiscaron bendes. Armus roscao. Nelon que mui. Dugan kin.
Donc c'était le morceau Piuvin. Je vais continuer avec un titre qui s'appelle Poultren. Et en breton, ça veut dire poussière. Et en gros, c'est un texte poétique qui dit qu'en fait, il ne faut pas trop s'attacher aux choses matérielles dans la vie, parce que tout a une fin. Nous-mêmes, on aura une fin. Un jour, on finira poussière. Et qu'il est primordial, en fait, de s'occuper des gens qu'on aime, et de prioriser l'amour, en fait, et entre les gens, plutôt que les choses matérielles. Voilà, pour résumer un petit peu ce texte de Poultren.
Braz o ar noir et with my gun. vom ket ane glevom ket pisauton ane welom ken ane glevom ken pisakon
avec Briac Garveno dans Purple Rain, et on a le droit à un dernier morceau.
Et un dernier morceau, alors un morceau qui s'appelle Argam's Class, que j'ai composé il y a 2 ans, c'est un des premiers morceaux que j'ai composé pour cet album, et en fait on sortait de la période du Covid, et donc j'avais demandé à la mairie de ma commune de me donner une salle à Ifindic dans la maison du patrimoine, donc je me suis retrouvé au tout dernier étage de la maison du patrimoine, et en fait c'était un lieu, une vieille maison du 19e, et très vite en fait j'ai ressenti des énergies pas forcément très cool dans cette maison là, et donc c'est le premier texte que j'ai écrit, donc ça parle d'un meurtre, c'est pas genré, on sait pas si c'est un homme qui a tué une femme ou une femme qui a tué un homme. C'est un peu un truc assez sordide, un peu de la matière bretonne aussi. Voilà. Et en fait, c'est assez étrange ce morceau-là, parce qu'il y avait une association qui travaillait juste en bas. Et donc, je vais voir la personne. J'ai dit, ouais, c'est quand même, il y a un truc qui se passe. J'ai le sentiment qu'il y a un truc dans cette maison qui est pas très clean, quoi. Et elle me dit, oui, non, mais je sais. Moi, j'ai dû faire venir quelqu'un à mon étage magnétiseur pour évacuer des personnes qui sont pas montées au paradis, qui sont mortes et qui sont parmi nous encore, quoi. Bon, on n'y croit pas, moi j'étais un peu sceptique de tout ça. Et dans cette salle, en fait, je suis arrivé un matin dans ma pièce, j'ai trouvé un pigeon mort, par exemple. C'était un truc, il pouvait arriver de nulle part, enfin, que des choses très bizarres comme ça. Bon, j'ai écrit ce texte, j'ai fait un concert l'année dernière chez un ami maraîcher, j'ai joué devant une vingtaine de personnes, et à la fin du concert, il y a un jeune qui est venu me voir, qui me dit, en fait, l'histoire que tu as parlé de la maison du patrimoine de Ifindic, ça m'a bouleversé, parce que moi j'ai fait un stage en fait dans cette maison-là il y a 3 ans, chez le fleuriste au premier étage, enfin au rez-de-chaussée, et en fait, à chaque fois que le propriétaire partait, j'entendais des pas à l'étage. Il y a une concordance. Alors j'ai su dernièrement qu'en fait cette maison elle a été construite sur les ruines de l'ancien cimetière d'Ifindic. Donc voilà, on y croit, on n'y croit pas, mais il y avait quelque chose de très particulier. Donc ça s'appelle Argam's Class. Mmh.
Merci, merci à toi Briec Garveno donc pour ces trois morceaux en live sur Canal B dans Purple Rain. Donc c'est, on peut les retrouver sur l'album qui sort le 16 mai prochain. Très bel album d'ailleurs au passage. La pochette elle est hyper hyper bien réussie. Et il y a tous les textes traduits en anglais.
Ouais.
Voilà, on en parlait tout à l'heure. Si on veut essayer de comprendre la poésie de Briec Garveno, voilà, c'est possible. Pour te voir à Rennes, par contre, c'est pas possible tout de suite, là. Mince.
Ouais.
Ah. Quand est-ce que tu vas jouer à Rennes ?
J'espère jouer d'ici la fin de l'année, j'aimerais beaucoup, ouais. En groupe, ouais. Ce serait super.
C'est ça, parce qu'en fait, il y a une version solo, un peu comme ce soir, là.
Ce soir,
puis une version groupe. Alors, ça ressemble à quoi, la version groupe ?
Alors, la version groupe, c'est une grosse machine de guerre. On est 5 sur scène. Donc, Stéphane Kerruel à la guitare électrique, Nicolas Hild aussi, qui est un batteur qui a pas mal joué dans des projets rennais, qui fait la batterie et des modulaires. Et on a Joachim Blanchet qui fait des claviers. Et on a Faustine Audebert à la basse et au clavier. Donc, c'est un gros setup avec plein de claviers, des modulaires. Assez conséquent comme live. Ouais.
Et en parlant de modulaire, j'ai cru comprendre que tu avais collaboré aussi avec Thomas Pauly, non ?
Et bah Thomas, en fait, il est venu parce qu'en fait, sur l'album, il y a la chorale du conservatoire de la maîtrise de la chorale d'enfants de la maîtrise de Bretagne. Et donc, j'ai demandé à Thomas de faire le recording des enfants. Donc, c'est lui qui a participé à ça, qui a fait le recording des enfants. Voilà.
D'accord, mais pas de synthé.
Il n'a pas fait de synthé, non. Okay. Il aurait pu.
Tu vas jouer au Trianon à Paris avec Miosec, ça sera en formule complète, j'imagine, ce genre de date.
Solo, ouais.
En même temps, c'est vrai qu'en première partie, c'est peut-être...
C'est plus light.
Pas forcément évident.
Ouais. Et puis, c'est les budgets aussi, et puis faire venir toute une équipe. Déjà, 5 musiciens, plus 2 techniciens, c'est déjà à Paris plus de 1 500 € de chambre d'hôtel. Mais ça, en solo, ça va être très bien aussi, je pense. Et c'est... ça peut être très beau aussi, je pense.
Et dans ta composition de tes titres, du coup, tu composes tout seul, ou à quel moment tes musiciens et tes musiciennes, ils arrivent dans le projet pour ensuite t'accompagner en live? Ça fonctionne comment?
Alors sur cet album-là, j'ai tout composé tout seul.
Okay.
Voilà, il y a des morceaux que j'ai arrangés pratiquement entièrement tout seul. Voir certaines cordes aussi, notamment sur Calon de Flamme, à la fin, les nappes de ce qu'on reprit, le quatuor, c'était des idées que j'avais posées moi en midi. Après, il y a des morceaux où il y a un travail en groupe, ça c'est clair. On a fait beaucoup de travail en groupe sur pas mal de morceaux de l'album aussi. Et il y a des morceaux qui ont été faits en studio, notamment le morceau Pelle Warrenen, qui est un morceau très années 80, qui a été réalisé par Johannes Buff, donc qui a fait l'album. Voilà. Qui a travaillé, c'est un producteur basque, parce que c'était un album que j'ai enregistré au Pays Basque, et il a travaillé avec Sonic Youth pendant une dizaine d'années. Il a été l'ingé son de Sonic Youth.
Avec Zombie aussi, plus récemment.
Ouais, il produit vachement de trucs. Il joue, enfin, le studio, c'est un studio qu'il a monté lui avec Peyo de. Petit Fantôme, ça vous dit quelque chose? Voilà.
Tu peux nous décrire un peu l'endroit c'est donc à Tarnos, le studio?
Ouais.
Et il y a vue mer, non?
Ouais, en fait, la mer, elle est pas loin. C'est à Tarnos, donc je sais même pas au Pays Basque. En fait, c'est dans les Landes, c'est juste à 5 km au-dessus de Bayonne. Et c'est dans une maison, et c'est le Shorebreaker. Alors, le Shorebreaker, c'est donc le studio de Johannes Buff et de Peyo. Et c'est un studio qui est très très en vogue en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de groupes pop qui vont enregistrer là-bas. C'est très très axé pop comme studio. Mais c'est un super réal. Honnêtement, moi c'est vrai que maintenant que j'ai travaillé avec lui, il y a des super studios en Bretagne. Hein, c'est pas le problème. Mais c'est pas le problème de trouver les bons studios, mais c'est de trouver les bonnes personnes derrière.
Et qu'est-ce que tu cherchais de particulier dans ce studio? Pourquoi t'es allé vraiment dans ce studio au Pays Basque? Au niveau du matériel, au niveau, il y avait des choses qui faisaient que...
Pour le réel, en fait.
Pour le réel, vraiment.
Ouais, ouais. Pour lui.
Et okay. Qu'est-ce qui t'a apporté, alors, le réel, du coup
Bah, écoute...
Sa façon d'être, est-ce que c'est des idées qu'il a proposées? Est-ce que... Même voir des réarrangements
Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quelqu'un de très, très calme, de très, très posé. C'est quelqu'un qui comprend la musique très bien. Et ça, en fait... On a tous, musiciens, eu des expériences désastreuses en studio.
Ouais, tu essaies d'expliquer à un gestion ce que tu veux, et en fait, ouais. Le gars, il comprend que là. Mais il dit, mais non, c'est pas possible, c'est pour des raisons techniques. Et
en fait, là, je lui ai donné les clés du camion, en fait. C'est la première fois que je donnais les clés du camion de ma musique à quelqu'un. Et par exemple, les prises de chant, je les ai fait en une journée, même pas et demie. C'est la première fois, tellement il m'a mis à l'aise, tellement c'était fluide. Pour tout le monde, ça a été très, très fluide. Et au niveau du mix, même le master qui a été fait par Benoît Bell, je le trouve super. C'est la première fois que j'entends vraiment une différence sur un master. Enfin, c'est vraiment un très bon studio, et je sais qu'il y a plein de... J'ai des amis à moi, même à Rennes, qui aimeraient bien beaucoup aller enregistrer là-bas. Donc je sais la chance que j'ai eue de pouvoir faire ce disque là-bas. Voilà.
Tu disais pendant le live, notamment sur le premier titre, que tu avais été inspiré par la lecture d'un livre d'un auteur islandais, c'est ça?
Ouais.
T'as, sur d'autres titres aussi, il y a eu beaucoup de lectures qui t'ont inspiré sur ces titres-là?
Ouais.
La littérature particulièrement pour cet album?
Ouais, et en fait je pense que j'étais dans un moment de ma vie où je savais plus trop, déjà j'avais des problèmes personnels que je traversais, et en fait j'avais du mal à mettre des mots là-dessus. Et d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément, pourtant. Souvent, la poésie, ça vient, je l'écris. Et là, c'est vrai que j'étais très, très sur la musique et très peu sur l'écriture. J'ai eu du mal à trouver des textes. Et en lisant certains livres, ça m'a ouvert quand même. Et je pense qu'en fait, c'est essentiel de lire quand on est auteur, parce que, en fait, c'est pas possible. On ne peut pas se nourrir que de ce qu'on a en soi. En fait, il y a un moment donné, il faut aller chercher des choses ailleurs. Donc, j'ai lu des classiques, hein, mais du romantisme. Émilie Brontë, j'ai le titre. Et forcément, j'ai un trou. Bref, Léo d'Hurlevent.
Léo d'Hurlevent, c'est ce que j'ai. Il y a sa sœur aussi.
Il y a sa sœur, ouais, je me demande si je me trompe pas. Enfin, bref. Et puis, il y avait Jon Kallman Stefansson, d'ailleurs, qui a entendu un des titres, notamment le titre qui a été inspiré d'un de ses livres.
Il a approuvé.
Et il a approuvé complètement. En fait, parce que la traductrice de mes textes qui passe du breton en anglais s'appelle Olof Petursdottir. Elle est islandaise. Elle parle breton couramment. Elle parle islandais couramment. Elle parle français couramment. Et elle parle anglais couramment. Voilà. Et elle travaille avec lui. Et je ne savais pas. Et donc, quand je lui ai envoyé les morceaux, elle lui a envoyé le
forcément,
titre.
Forcément, le monde est petit quand même.
Le monde est petit. Parce qu'elle a traduit certains de ses livres en breton. Voilà.
Ok.
Est-ce que tu as lu Le cheval d'orgueil du père Jacques et Elias?
Bien sûr, ouais. Celui-là, je l'ai lu. Et j'ai lu La réponse aussi de Xavier Graal, le cheval couché. Ouais.
Pourquoi cette question, Binge?
Bah non, parce que pour la langue bretonne, en fait, c'est quand même un bouquin assez important, en fait.
Ouais. Bah, c'est deux visions de la Bretagne à une certaine époque. Pierre-Jacques Essélias qui raconte un peu son enfance à Plouzévette et son enfance en langue bretonne, tout ça. Et puis il parle d'un monde qui est en train de mourir, qui est en train de passer. Et la réponse de Xavier Graal, c'est le cheval couché. Hein, donc il dit, l'identité bretonne, elle est pas, c'est pas celle que tu décris qui est en train de mourir. Enfin, voilà. Donc on est dans les années 70, je crois. Fin 70.
Il y a même un débat télévisé où ils s'engueulent là.
Ils s'engueulent, ouais.
C'est vrai. Pas de main. Surtout Xavier Graal, il est quand même assez virulent. Mais bon, ouais. Après, c'est son âme de poète aussi.
Et c'est toute l'époque aussi du revival. On a à la même époque, on a Glenmore, on a tous ces gens-là qui portent. Faut se mettre aussi dans le contexte de cette période où il y avait quand même un grand désespoir pour la langue bretonne. Je veux dire, les écoles bilingues, les écoles d'Ivan n'existaient pas, quoi. Mm. Tout ça n'existait pas, en fait. Donc, ils étaient vraiment en train de se dire, mais là, on est en train de tout perdre, en fait. On est en train de perdre notre langue, on est en train de perdre notre culture, on est en train de perdre notre histoire. Et c'est de ça qu'est né le renouveau culturel breton dans les années 70. Hein.
Et quand tu parlais tout à l'heure de tes lectures islandaises, de tes personnes avec qui tu as travaillé, qui sont aussi basées là-bas, il y a quelque chose qui n'est pas si surprenant que ça, je trouve, même dans ta musique. On pourrait limite dire que tu viens de là-bas, ta musique, ça sonne un peu de ces pays là-bas. On a entendu Sigur Rós un petit peu, ouais. Même la pochette de ton premier album, ouais. Je trouve, ouais. Moi, quand j'ai vu la pochette, j'avais l'impression que c'était une pochette d'un album un peu plus du Nord, finalement. Ouais. Tu as quand même des atomes crochus avec cette culture aussi, j'ai l'impression.
Beaucoup. Et je pense aussi, peut-être... C'est bon, moi ma culture musicale, ça a été beaucoup en niveau rock, ça a été beaucoup les Cure. Voilà, j'ai toujours été dans des groupes un peu darkos comme ça. C'était beaucoup les Cure, Radiohead et beaucoup le métal, en fait. Moi maintenant, mais quand j'avais 16-17 ans, c'était la vague du black metal norvégien à l'époque. Donc on est en 96-97 et il y a cette scène qui émerge de Norvège là et qui va avoir une très très grande influence sur moi, en fait, en tant qu'adolescent. Voilà, il y a des disques comme ça qui ont marqué énormément ma musique aussi, même si c'est pas du tout ça. Mais je pense qu'il y a un lien, effectivement. Puis après, j'ai découvert aussi Sigur Rós et tout ça. Mais oui, je pense que j'aime bien ces atmosphères-là. J'aime bien ces atmosphères-là. Et je trouve que ça colle bien aussi avec l'idée que je me fais de la langue bretonne aussi, une langue poétique, très imagée. Donc voilà.
On écoute un autre extrait donc, de cet album apparaître le 16 mai. Le titre, c'est Ebiudin. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots avant qu'on l'écoute?
Ouais, et ben écoute, en fait, juste cet album-là, en fait, il est beaucoup moins homogène que était le précédent. Le précédent, c'était un album folk avec juste piano, mélotron, guitare et cello. Et là, en fait, j'ai essayé plusieurs styles. Donc, il y a des titres très très années 80. Il y a un titre très années 80. J'ai exploré plusieurs univers musicaux. Celui-là, il est assez rock électro. Il y a une petite vibe 60, je trouve, dans le refrain. Et pareil, un artiste que j'ai découvert, Anony, que je ne connaissais pas. Et en fait, à chaque fois que je chantais, on me disait, mais c'est fou, t'as un timbre de voix assez proche de lui. Alors du coup, j'ai été voir ce que c'était. Et donc il y a peut-être un petit côté un petit peu comme ça dans ma voix, même s'il est immensément meilleur chanteur que moi. Voilà, c'est le titre Ebiudin, quoi. Thank you.
merci beaucoup Briek Garveno d'avoir accepté cette invitation dans Purple Rain. Donc c'était voilà, Ebudin, donc le deuxième titre de cet album à paraître le 16 mai Unnozavo. Voilà,
j'essaie de
le dire correctement.
Tu peux apprendre le breton. Merci à vous en tout cas.
Merci
pour votre accueil.
On lui souhaite une longue vie à cet album et avec un concert à Rennes dans les prochains mois. Voilà,
j'espère.
On va suivre ça. On l'annoncera en fin d'émission, puisque c'est ce qu'on fait en fin d'émission dans Purple Rain, c'est qu'on vous annonce quelques idées sorties pour les jours à venir. Mais vas-y, Kat, je te laisse commencer.
Et c'est une fin de semaine un petit peu moins dynamique, on va dire. Là, il y a eu des semaines très, très, très chargées à Rennes où il fallait faire des choix. Et voilà, il y a. Ce jeudi, comme tous les ans, c'est le 1er mai et il y a la fête de la paresse, rue de Saint-Malo. Donc voilà, c'est de 11h à 22h, musique, restauration, des jeux pour tout le monde. Donc il fera beau, donc ça peut être l'occasion aussi de passer la journée là-bas. Et voilà, après j'ai pas vraiment été voir la programmation des groupes, donc je peux pas en dire plus que ça, mais voilà.
Il y a quelques groupes rennais que je ne connais pas personnellement, mais ça vaut sans doute le coup d'aller voir. De toute façon, c'est toujours un bon moment, la fête de la paresse, rue de Saint-Malo, en général.
Exactement.
Après avoir battu le pavé, c'est une bonne manière de finir la journée. Binge.
Ouais, bah écoute, vendredi, au Noctambule, il y a un groupe Chelabaume. Alors, ils écrivent comme pop, groove, jazz. Y a des morceaux, ils m'ont envoyé une session live et tout. Des morceaux, c'est chanté en français et tout, avec de l'autotune. Et d'autres morceaux, là, qu'on a écoutés, c'est plus en espagnol et tout. Voilà, ça a l'air coolos ce vendredi, au Noctambule, voilà, vers 21h.
Bah parfait, on s'écoute ça pour se quitter, alors, Chelabaume. Et puis bah, on se retrouve dans 15 jours normalement,
c'est
si
ça.
Tout va bien.
Pas d'émission mercredi prochain parce qu'on se repose de temps en temps aussi, on fait pas beaucoup de pauses dans l'année, donc on a décidé de profiter du prochain long week-end la semaine prochaine. Voilà.
Si vous avez envie de faire la route jusqu'à Saint-Brieuc, la release party de Briek Garveno, ouais. C'est le 16 mai à Bonjour Minuit.
C'est le 14.
Ah, le 14, pardon.
Le 14, ouais. Ça a changé, c'était le 16 et c'est passé au 14, donc c'est le 14 mai en fin d'après-midi. 4h30, 5h, c'est pour un petit goûter musical.
Ok.
Okay. Voilà. Avec du Queen Amman ou pas?
Ah, j'aimerais bien. Et du Kika Farce.
Ouais, ça c'est fort. C'est costaud pour goûter quand même. Bon, on écoute Chelabaume et puis on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et bonne soirée sur Canal B. Salut.
Salut.
Salut. Pues cultivamos nuestra ira. Yo
siento tu mirada en la calle. Con mis pasos y mis ojos tu boca le callé. A quien realmente pertenece. A veces soy cansada de estar humble.